Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire. Alors, il y a plusieurs semaines, je recevais à ce micro Jean-Louis Poirier. Jean-Louis Poirier est un philosophe, mais on peut le dire, c'est aussi un historien, c'est aussi un homme de lettres. Et il a publié, aux Belles Lettres, un ouvrage sur les mythologies. Je le recevais à cette occasion. Et après le succès de cette émission, eh bien, j'ai souhaité consacrer une série tout spécialement à ces mythologies. Et pour parler de ces mythologies, eh bien, il fallait absolument que j'invite Laure de Chantal. Laure de Chantal, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, qui mieux que vous peut parler de ces mythes, au fond, parce que vous êtes ni plus ni moins qu'éditrice aux éditions Les Belles Lettres, qui sont un de nos partenaires. Donc, trois émissions, une première consacrée, au fond, à l'origine des mythes, une deuxième émission qui, au fond, est un peu une émission d'actualité, puisque nous verrons les liens qui existent entre mythologie et environnement. Et enfin, nous verrons comment les Grecs et les Romains ont cru à leur mythe. Pour être complet, je dois dire que vous êtes normalienne, agrégée de lettres classiques. Vous avez publié plusieurs ouvrages aux Belles Lettres, mais aussi avec Xavier Mauduit, que nous saluons. Votre dernière œuvre littéraire, si je puis dire, ce sont les Petits Latins. C'est une nouvelle collection des Belles Lettres?
Oui, exactement. C'est une collection qui s'adresse à ceux qui débutent le latin, donc qu'ils aient 10 ans et qu'ils entrent au collège, ou qu'ils soient plus âgés que 10 ans, et qu'ils veuillent se mettre au latin ou rafraîchir un peu leur mémoire s'ils ont fait du latin au collège ou au lycée et qui veulent s'y remettre. La collection vise à apprendre, à améliorer son français. Elle est orientée vers le français grâce au latin, en apprenant des expressions telles que le tonneau des Danaïdes ou l'épée de Damoclès. Et c'est présenté comme un livre, enfin c'est un petit livre bilingue, avec d'un côté une histoire, la première histoire étant justement consacrée à de la mythologie, puisqu'il s'agit de la descente de Énée aux enfers, où vous avez donc sur la page de gauche du latin et sur la page de droite du français, avec en dessous toutes les explications pour vous aider à comprendre le texte et pour approfondir et améliorer votre français. Et à la fin de cette page, vous vous apercevez que, prodige à voir, vous êtes arrivé à lire une page de latin. Puis deux, puis trois, puis quatre, puis tout un livre. Et là, bravo, vous avez lu tout un livre en latin.
Eh bien, nous incitons nos auditeurs à découvrir cette petite collection donc de Laure de Chantal, Petit Latin aux éditions Les Belles Lettres. Alors, je dois aussi mentionner votre ouvrage qui a été co-présenté avec Jean-Louis Poirier, Bibliothèque mythologique idéale. Il s'agit d'une anthologie de textes sur la mythologie.
Exactement, parce que la première question qu'on peut se poser quand on aime la mythologie, c'est qu'est-ce que je vais lire? Quel livre va me raconter la mythologie? Autre qu'un livre pour enfants. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'en existe pas vraiment un récit suivi dans l'Antiquité de la mythologie. C'est pas que je vais faire de la promotion pour ce livre, mais si vous voulez une...
Vous êtes là pour ça aussi.
Si vous voulez lire la mythologie telle qu'elle a été racontée par les auteurs anciens et pas telle qu'elle a été racontée par la suite, qui est aussi, à mon avis, une autre forme de mythologie, mais différente. Si vous voulez avoir la source de la mythologie, il faut prendre cet ouvrage. Parce que dans l'Antiquité, les deux auteurs, on va dire trois, qui nous parlent réellement de manière suivie la mythologie comme un livre pour nous, avec un début, un milieu, une fin, des personnages, et ça fait une série, ça fait une histoire, il n'y en a pas vraiment ou très peu. On peut citer un auteur grec qui s'appelle Hésiode et qui parle de la théogonie ou la cosmologie, la création du monde. Mais il s'arrête dans son récit, donc il parle de la création du monde, des premiers dieux, des titans, des géants, de l'arrivée du règne des Olympiens, du premier homme, mais il s'arrête à la création et à l'établissement du monde olympien. Il n'a pas raconté toutes les histoires de métamorphose, les histoires d'amour, toutes les choses qu'on aime bien. Voilà. Donc ça, c'est un récit suivi, mais qui qui finit par, enfin, qui se termine à l'arrivée de l'ordre des Olympiens. Vous avez ensuite chez les Latins, chez les Romains, Ovide, mais lui, ça va être thématique. Il va vous raconter toutes les métamorphoses. Pareil, sans ordre chronologique. Donc, si vous avez besoin d'ordre, ça ne va pas marcher. Enfin, l'auteur qui est peut-être le plus complet, mais malheureusement qui n'est pas le plus beau, c'est Apollodore, un auteur de la fin de la période de l'Antiquité, qui a écrit La Bibliothèque, qui est un ouvrage. Apollodore était un érudit, on dirait un savant, un prof, enfin quelqu'un qui essayait de mettre de l'ordre dans la mythologie, chose proliférante et désordonnée, et qui a essayé de trouver une cohérence à tous les mythes pour en faire un récit suivi. Donc il y est parvenu, mais comme il y a énormément de mythes et énormément de mythologie, ça fait un récit, on a l'impression que c'est en avance rapide en permanence, parce que c'est très sec. C'est une histoire, une rencontre, une anecdote, un enfant, une nouvelle histoire. Donc c'est vraiment la mythologie en accéléré. Mais c'est peut-être le seul texte où vous avez réellement la mythologie du début à la fin. Et si vous voulez connaître une grande partie de la mythologie, il faut piocher dans plusieurs auteurs, ce qu'on a fait avec cette anthologie.
Alors, vous évoquez Hésiode, vous évoquez Apollodore, vous ne parlez pas d'Homère ?
Bah, Homère, ça peut surprendre, mais Homère ne fait pas de la mythologie. Il fait beaucoup d'autres choses, peut-être beaucoup mieux. Mais il fait pas ça. La mythologie est présente, elle est évoquée, il y a quelques récits de mythes, mais si vous lisez Homère pour lire de la mythologie, vous n'y trouverez pas de mythologie. Vous n'aurez pas les métamorphoses, vous n'aurez pas la création du monde. Vous aurez des hommes et des dieux et une épopée.
Alors, comment connaît-on les mythes précisément ?
Alors, on connaît les mythes justement par des auteurs, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois, c'est jamais dans la totalité. Et ça, c'est une chose importante parce que c'est un peu comme la guerre des étoiles. Si vous voulez donner l'impression que vous êtes dans un univers immense, proliférant, féerique, il faut que vous le présentiez de façon parcellaire, qu'on a l'impression que ça soit toujours un petit bout de l'immensité, un petit bout de la ciel étoilé de Star Wars ou du ciel étoilé de la mythologie. Et donc, les auteurs ne font pas différemment. Ils prennent une partie. Homère va parler de la partie qui est celle de la fin de la période, enfin de la période des héros de la guerre de Troie. Ovide, que je citais tout à l'heure, lui va prendre un angle thématique et va dire « je vais vous raconter dans le vaste monde de la mythologie seulement les métamorphoses ». On peut citer naturellement également les tragiques grecs, qui eux vont parler de mythologie, mais en prenant simplement une figure ou une maison, les Atrides, Antigone, et pour les tragiques grecs, donc je rappellerai juste les trois noms, c'est Eschyle, Euripide et Sophocle.
Est-ce que cela veut dire que, au fond, les anciens connaissaient ou ne connaissaient pas la suite de l'histoire, le fait de se focaliser uniquement sur une petite partie?
Je pense que ça fait partie de l'esthétique de la mythologie de donner l'impression que il y en aura toujours un peu plus. Et c'est ce qui fait qu'elle est si roborative, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est face à un monde et que on pourra toujours en savoir un peu plus. Et c'est ce qui développe les phénomènes de fans, parce qu'il y aura toujours un détail de la mythologie qu'on n'aura pas, et un auteur va vous dire bon bah vous croyez que il y avait eu telle ou telle métamorphose, mais moi je vais vous dire que en plus de cette métamorphose, avant à ce personnage il lui était arrivé ceci. Il y en aura toujours plus. Et il faut dire également que la mythologie dans l'Antiquité est très présente. Et elle est présente partout. Là, aujourd'hui, on parle des textes, mais on pourrait parler également des peintures, des fresques, de tous les objets. Dans l'Antiquité, on vit entouré de mythes. D'où la nécessité de toujours varier et de toujours surprendre. Peut-être que si, dans le cadre d'une soirée, il y a quelqu'un qui vient réciter de la poésie, un récitant, tout le monde est là, vous avez votre cénacle d'invités, vous avez le droit d'être plus de 6, et arrive l'acteur ou le récitant, et tout le monde connaît l'histoire, donc lui, il va vouloir surprendre un peu, il va dire « oui, Ah, vous connaissez l'histoire d'Antigone, mais est-ce que vous savez ce qui est arrivé à sa jumelle qu'on ne connaissait pas, ou est-ce que vous savez ce qui est arrivé à sa sœur après, ou enfin rajouter toujours un petit peu plus pour faire de la surprise sur un substrat commun.
Mais cela signifie qu'on prend une liberté avec les mythes. Est-ce qu'on peut, ce qu'on appellerait broder sur les mythes à l'époque?
Il y a des points de passage obligés, des choses qu'on ne pourra jamais changer et qui, on va dire, vont être un petit peu canoniques.
Antigone restera Antigone.
Antigone restera Antigone, Édipe restera Édipe, le pauvre, mais c'est comme ça. Et il y a des passages obligés, mais pour le reste, oui, vous pouvez introduire de la liberté, de la variation. Il y a d'ailleurs des versions très différentes. Si on prend celle de la naissance d'Aphrodite, chez Hésiode et chez Homère, elle est différente. Ce n'est pas la même.
Mmh. Alors, quels sont les grands récits mythologiques?
Si vous voulez des récits suivis, il faut aller du côté de l'épopée. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, je citerai plus vers la fin de la période, parce que c'est peut-être à un moment où on avait besoin, peut-être parce que le savoir se perdait, on avait besoin de savoir, d'avoir quelque chose de plus suivi. On peut citer notamment Apollonios de Rhodes, qui raconte la geste de Jason. On peut citer également, à l'extrême fin de la période, Claudien, avec le rapt de Claudien, qui est un auteur latin, avec le rapt de Proserpine. Et Nonos de Panopolis, qui a écrit les Dionysiaques, où là, vous avez, c'est un savoir encyclopédique.
Vous avez évoqué l'enlèvement de Proserpine. Que nous raconte ce récit?
Alors, il nous raconte une belle histoire, et en plus, dans le cas de Claudien, il nous la raconte d'une manière magnifique. Et en plus, dans le cas particulier de la traduction qui est donnée dans la collection des universités de France, elle est exceptionnellement belle. Donc, j'engage tout le monde à lire ce texte. Il raconte l'histoire donc de Proserpine, Perséphone pour les Grecs, qui est la fille de Déméter. Déméter est la déesse de l'agriculture, des moissons. C'est elle qui a donné le blé aux hommes, alors que Dionysos leur a donné le vin. Et donc, le roi des enfers, Hadès, pour les Grecs, ou Pluton, pour les Latins, n'est pas marié et il souhaite l'être. Et donc, il lui faut une épouse. Et il demande conseil à Zeus, qui est son frère, et Zeus lui propose le mariage de Proserpine, une jeune déesse. Proserpine, qui est appelée Corée. Chez les Grecs, en plus de Perséphone, ça veut dire que c'est vraiment une toute jeune fille. Elle est présentée dans les textes quasiment comme une enfant. Enfin, un âge où une jeune fille est plus contente d'être avec sa mère que dans les... Que dans les bras d'un homme, voilà.
Même d'un dieu.
Mais surtout que c'est une déesse aussi, donc... Et donc, elle est tranquillement... Donc, un stratagème entre les deux frères se monte. Et certaines déesses sont complices, et donc la petite Perséphone est en train de cueillir des fleurs dans une prairie en Sicile, et tout à coup la terre s'ouvre et le roi des enfers se saisit d'elle et la tire dans le royaume des enfers, et donc elle disparaît. Sa mère est dans un état de tristesse divin et humain à la fois. Voilà, encore plus que pour une autre mère. Et elle part à la recherche de sa fille. Elle cherche vraiment une quête qui est introduite. Et comme elle est en deuil et qu'elle est la déesse des moissons, la déesse qui assure l'aspect nourricier de la terre. Celui-ci n'est plus assuré. Donc le blé ne pousse plus, les arbres ne donnent plus de fruits, et très rapidement, les hommes meurent de faim. Et ça commence à être un problème même pour les dieux, Et elle arrive à un endroit et elle est épleurée, elle se fait servante chez les hommes. Et une des autres servantes parvient à la faire rire et à la faire sourire. Et donc, en échange, elle lui raconte son histoire. Et les hommes prient. Et Zeus finit par entendre leur prière. Et il décide, donc il parle à son frère et dit quand même tu devrais la laisser sortir un peu de temps en temps, pas la garder, tout ça. Et Hadès accepte de le faire à une seule condition, c'est que sa femme mange un grain de grenade qui lui assure, allez savoir pourquoi, le fait qu'elle va revenir. Bon, sa bonne intendeur salue. Et donc Perséphone retourne chez sa mère et tout se remet à refleurir, le blé se remet à pousser. Mais l'échange est le suivant. La déesse Perséphone doit retourner en enfer avec son mari. Donc elle est 6 mois aux enfers avec son mari, 6 mois avec sa mère. Et donc, elle peut donc aller d'un monde à un autre, chose qui est assez rare et correspondre pour nous, parce qu'il y a toujours une valeur étiologique, c'est-à-dire de donner une cause, donc de donner une raison, correspondre pour nous les mois de l'année, c'est-à-dire les mois qui sont les mois où la végétation pousse et devient belle, les mois de printemps et les mois d'été, et les mois où, au contraire, la végétation décline, qui sont les mois d'automne et d'hiver.
Alors, vous évoquiez aussi, merci pour ce récit, vous évoquiez aussi Nonos de Panopolis. Qui est ce Nonos de Panopolis?
Alors, c'est littéralement un illustre inconnu, parce que on ne sait pas grand-chose de lui. Et c'est un auteur qui a vécu vraisemblablement à la toute fin, au 6e siècle après Jésus-Christ, donc à un moment où il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient chrétiens. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter à son propos. De Nonos de Panopolis, on a retrouvé deux textes. D'une part, les Dionysiaques, qui est un livre énorme, c'est vraiment des volumes et des volumes, dans la collection des universités de France, c'est très très long, qui raconte la geste de Dionysos, donc quelque chose de très baroque, païen, avec du sang, des larmes, des grandes tirades, des récits, des monstres incroyables, enfin vraiment quelque chose qui respire, explose tout ce qui est païen, tout ce qui est païen dans la religion. Et de l'autre, on a retrouvé des fragments d'une vie de Saint Jean. Mais vraiment, même pas vraiment des fragments, juste une trace disant qu'il avait écrit cette vie-là. Donc, pour les érudits, pendant longtemps, l'ordre des choses était très naturel. Dans sa folle jeunesse, Nonos de Panopolis avait été païen, et puis il avait été convaincu, la foi lui était venue, il est convaincu à ce qu'il fallait que le monde advienne, c'est-à-dire passer du paganisme au monothéisme, et il avait écrit cette vie de Saint Jean. Sauf qu'en fait, on a pu dater un peu plus précisément les textes, et c'est l'inverse. Il était d'abord chrétien, d'abord monothéiste, et ensuite, il est redevenu païen. Et ça, c'est une réalité qu'on a du mal à aborder pour nous, parce qu'on a l'impression qu'il y a ce sens de l'histoire est inexorable. De fait, c'est ce qui s'est...
Avons une vision progressiste, alors que ce n'est pas... qu'il n'y a pas de fatalité en histoire.
Surtout qu'au VIe siècle, on pouvait encore se demander, alors, est-ce qu'ils sont un ou plusieurs?
Alors, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. Est-ce que la mythologie est en quelque sorte l'équivalent de la préhistoire pour les Grecs et les Romains?
Alors, oui et non. Préhistoire au sens où très rapidement on a la conscience qu'il y a une chronologie, les anciens ont la conscience qu'il y a une chronologie qui s'instaure et qu'il y a des temps mythiques qui se terminent au dernier temps des héros et au retour des enfants des héros. Donc précisément, on date, il n'y a pas d'année, mais on fait finir la fin de la mythologie au retour des Héraclides, donc des enfants d'Héraclès. Et après, c'est l'histoire. Donc, il y a cette continuité historique qui est établie. Donc, dans un sens, on peut dire que c'est de la préhistoire. Sauf que une autre chose est très présente, à mon avis, dans la mythologie, c'est l'idée que c'est quelque chose qui se transmet. Or, nous, ce qui fait la différence entre l'histoire et la préhistoire, c'est ben, l'écrit. Mmh. Alors que là, ça serait quelque chose qui serait écrit, donc destiné à être transmis dès le début. Donc, en ce sens, c'est pas vraiment de la préhistoire. Mmh. C'est plus l'idée d'une culture du passé qui doit être transmise, et transmise parce qu'elle regarde vers le futur, en fait.
C'est donc une histoire sans fin ?
Exactement.
Eh bien, merci beaucoup, Laure de Chantal, d'être venue à notre micro. Donc, Bibliothèque mythologique idéale, parue aux Belles Lettres, une anthologie de textes, hein, des grandes mythologies, des textes réunis, avec Jean-Louis Poirier. Je cite également Les Petits Latins que nous évoquions en début d'émission, toujours chez le même éditeur. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une émission consacrée cette fois à la mythologie et à l'environnement. Merci et à la semaine prochaine.